le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Diéki.
Dans ce journal des auditeurs, la Guinée, avec cette passation de pouvoir exemplaire entre le général Sékouba Konaté et le président élu démocratiquement Alpha Condé, on peut dire que c'est un printemps démocratique qui contraste avec l'hiver politique en Côte d'Ivoire. Vous le savez, la situation se cristallise dans ce pays. Quels pourraient être les différents scénarios possibles? La réponse dans quelques instants avec Yves Ekwe Amaïso, consultant international et expert auprès de l'Union africaine.
D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses.
Oui, bonjour amis du JDA.
Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et
bonjour Richard, bonjour Eugénie.
Informé sans déformer, jugé sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Alors nous avons un autre invité, en dehors du professeur Yves Ekwe Amaïso, Ekwe Amaïso que je salue. Bonjour professeur.
Bonjour.
Un autre invité donc, en direct de Conakry, monsieur Kaba Kondé. Bonjour monsieur Kaba Kondé. Allô, est-ce que vous m'entendez monsieur Kaba Kondé? Allô, monsieur Kaba Kondé. Alors, monsieur Kaba Kondé, j'espère que nous vous aurons dans quelques instants pour nous parler de l'ambiance qui prévaut actuellement en Guinée-Conakry. Vous êtes journaliste et directeur à la radio-télévision guinéenne. Et on sait que Alpha Condé prête serment aujourd'hui à Conakry en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont Abdoulaye Wade du Sénégal, le président malien Amadou Toumani Touré ou encore le président du Gabon, Ali Bongo. Kaba Kondé, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends.
Merci d'être avec nous. On ne vous prendra pas beaucoup de temps. Alors, quel est l'état actuel, quelle est la situation actuelle en Guinée? Quelle est l'ambiance générale qui prévaut?
Oui, c'est une grosse ambiance. Nous sommes dans l'amphithéâtre du Palais du Peuple de Conakry.
Oui.
Un palais construit par la coopération chinoise en République, qui pratiquement refuse du monde aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de personnes dehors qu'à l'intérieur, et il y a déjà près de 5000 personnes qui sont dans cette salle. Personne ne veut se faire raconter. Un qui aujourd'hui regroupe 15 chefs d'État de différents pays africains, 17 chefs de délégation représentant les différents États, l'adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Madame Rose, la Tanzanienne, est également ici, Monsieur Jean Ping, le secrétaire général, le président de la Commission de l'Union africaine est également là, et Monsieur Olusegun Obasanjo représente le président Goodluck Jonathan de la CEDEAO, en direct donc de Conakry, au Palais du Peuple ici à Conakry. Donc, tout le monde est là, beaucoup d'invités. La cérémonie n'a pas encore officiellement commencé, mais tous les chefs d'État sont déjà dans la salle, déjà quelque part à côté de cette salle d'audience, qui est aujourd'hui transformée en salle d'audience de la Cour suprême.
Oui.
Et je vous rappelle que le programme prévoit l'audience de la Cour suprême qui va être consacrée à la prestation de serment du président de la République, la décoration du président par le grand chancelier de l'Ordre national du mérite de Guinée, ensuite le président de la République de Guinée, Alpha Condé, après la prestation, va se retirer, va recevoir les honneurs militaires, la congratulation des 15 chefs d'État qui ont fait le déplacement, et puis va revenir dans la salle où le général Sékouba, qui a dirigé la transition justice, va s'adresser pour la dernière fois en tant que président aux Guinéens. Ensuite, M. Jean Ping, le président de la Commission de l'Union africaine, sera suivi de M. Obasanjo, représentant du secrétaire général de l'ONU, son adjoint, Mme Assa Rose Migo, et puis le professeur Alpha Condé sera le dernier à intervenir dans cette salle du Palais du Peuple. Donc c'est après cette cérémonie-ci qu'il y aura un déjeuner d'État, un déjeuner officiel qui sera offert par le nouveau président Alpha Condé au CAS de Bellevue. Pour le moment, c'est ce que nous pouvons vous dire pour la situation qui prévaut en ce moment-ci à Conakry, la capitale de la République de Guinée dans l'Ouest africain.
Voilà. Alors, vous l'avez dit, Kaba Kondé, si la Guinée vit aujourd'hui ce moment extraordinaire, elle le doit en grande partie à trois hommes, notamment Sélou Dalein Diallo qui a reconnu sa défaite, Sékouba Konaté, donc le général devenu président par intérim, qui contre vents et marées a tenu parole en organisant l'élection présidentielle, et puis bien sûr Alpha Condé, l'opposant de toujours, condamné à mort sous Sékou Touré, emprisonné sous l'ancien Konté, et qui devient donc aujourd'hui le premier président démocratiquement élu en Guinée. Alors la Guinée donc devient un modèle démocratique, de démocratie en Afrique. Comment la Guinée en est-elle arrivée là, selon vous, Kabakondé?
Bon, ça a été un chemin très, très, très long. Vous savez, tout a commencé le 22 décembre 2008, quand le général président Lansana Conté est mort. Dans la nuit du 23, un groupe de jeunes officiers à la tête du capitaine Dadis a pris le pouvoir. Donc le 23 décembre, la Guinée s'est réveillée avec un nouveau pouvoir. Alors ce pouvoir a géré la chose guinéenne jusqu'à ce que la communauté internationale, l'opposition guinéenne, commence à demander le retour à une vie constitutionnelle normale à la République de Guinée. Et puis il y a eu des disputes. International sur la Guinée a fait 3 ou 4 déplacements en Guinée. Il y a eu des rencontres ici au Palais du Peuple à Conakry, ensuite au plateau de la télévision nationale guinéenne à Koloma, ici à Conakry, toujours. Alors, de discussion en discussion, la pierre d'achoppement a été l'éventualité d'une candidature possible du capitaine Dadis quand il aura très certainement enlevé la tenue pour postuler à la présidence de la République du Guinée. Alors c'est là que tous les problèmes ont commencé. Et quand les forces vives ont senti que le capitaine Dadis tenait mordicus à se présenter à la présidentielle en République de Guinée, les problèmes ont commencé. Les forces vives, c'est-à-dire l'opposition guinéenne, a engagé cette grande marche du 6 septembre. Vous connaissez la suite.
Oui.
Plus de 150 morts au stade de Conakry. Et puis, ensuite, les défenses ont continué. La Guinée s'est retrouvée toute au banc de la communauté internationale pour cette répression du 26 septembre au stade de Conakry. Et puis, il y a eu la tentative d'assassinat du maître de camp du capitaine Dadis Toumba Gakité sur la personne du capitaine Moussa Dadis Camara au camp de Koundara. Et puis, bon, le président Dadis a été envoyé au Maroc pour les soins. C'est du Maroc que, début du mois de 2010, il est venu au Burkina Faso. Alors, quand il est arrivé au Burkina, maintenant, les négociations ont repris au Burkina. Il y a eu ce qu'on appelle les accords de Ouagadougou, la nomination du président du Faso, le capitaine Blaise Compaoré, comme médiateur de la crise guinéenne, qui a bien géré cette le général Sékouba Konaté, qui était le deuxième vice-président du CNDD. Je rappelle que le CNDD, c'est l'organe militaire qui a pris le pouvoir en République de Guinée le 23 décembre. Donc Sékouba Konaté, deuxième vice-président du CNDD, ministre de la Défense nationale, a été désigné comme président de la République de Guinée par intérim, président de la transition. Ensuite, les forces vives ont désigné un premier ministre à la personne du Jean-Marie Doré. Et puis la syndicaliste Rabia Diallo a été désignée comme présidente du CNT, l'organe de transition. Donc ce sont ces différents instruments qui ont travaillé. Et puis au mois de mai, les candidatures ont été reçues par la greffe de la Cour suprême. 24 candidats pour le premier tour, qui a eu le 27 juin 2010. Et puis en tête de ce premier tour, c'est Ndiaye Diallo qui a recueilli près de 44%,
oui,
suivi du professeur Alpha Condé qui a eu 19% des voix. Donc les alliances ont commencé. Selou Dalé a formé autour de lui une alliance qu'on appelle Alliance Selou Dalé Président. Et puis le professeur Alpha Condé a réuni autour de lui 16 partis politiques, 112 associations et mouvements politiques qu'on a appelé l'Alliance Arc-en-Ciel. Donc le 7 novembre 2010, les Guinéens ont voté entre ces deux et puis ils ont finalement décidé de donner leur voix au professeur Alpha Condé, qui venait de très loin, hein, parce qu'il n'avait que 19%, et à la proclamation des résultats du deuxième tour, le professeur Alpha Condé a remporté par 52,52% des suffrages contre 47,48% à Selou Dalé Diallo. Voilà donc d'où vient la Guinée.
D'où vient la Guinée?
Très longue date. Donc aujourd'hui, le président élu de la République guinéenne, Alpha Condé, qui n'est pas encore dans cette salle, mais qui est déjà dans l'enceinte du Palais du Peuple, ainsi que les 15 chefs d'État qui ont fait le déplacement au Conakry, ainsi que le président de la transition, sont ici dans l'antichambre du Palais du Peuple. Ils vont d'un moment à l'autre entrer dans cette salle pour la prestation de serment du professeur Alpha Condé.
Alors merci de nous avoir rappelé tout ce processus qui a été long, sanglant aussi, violent, il faut le dire. Alpha Condé donc prête serment aujourd'hui et en fait ce qu'il devra faire à peine investi, c'est d'annoncer rapidement le nom de son premier ministre. de son cabinet ministériel, on va dire, de son équipe gouvernementale. Alpha Condé veut des ministres dessus de tout soupçon, c'est-à-dire des personnalités en fait qui n'auront pas été associées au moindre scandale politico-financier, Kaba Condé.
Oui, le professeur Alpha Condé a dit qu'il fera un changement en Guinée. Alors, le changement en Guinée, ça signifie quoi? Alors, ça signifie que ce n'est pas forcé ou ce n'est pas l'essentiel de changer forcément les hommes, parce que le professeur Alpha Condé dit qu'on peut garder des hommes, mais qu'il faut que ce soit la manière de gouverner en Guinée qui change. C'est ça le principal atout. Que pendant la campagne électorale, certains avaient reproché au professeur Alpha Condé d'être entouré de certains leaders qui ont géré la transition, qui ont géré en Guinée. C'est le cas de Lansana Piaté qui a été premier ministre de, bien sûr, Lansana Conté. Bassa Piaté, il a été premier ministre. François Fall également a été premier ministre. Ousmane Kaba a été ministre des Finances. Donc beaucoup de personnalités. Alfred Bramakir a été secrétaire général de la présidence. Tous ces candidats au premier tour ont rapporté leur voix et leur report de voix a été effectif. Auprès d'Alpha Condé. Dans le camp de Sélou Daleine Diallo, il y a Sélou Daleine lui-même qui a été Premier ministre, il y a Tidia Touré qui a été Premier ministre, il y a Moussa Solano qui a été ministre, l'État ministre de l'Intérieur. Donc, pratiquement, pendant les 52 ans de vie de Guinée, rares, très très rares sont les Guinéens qui n'ont pas été mêlés à la gestion du quotidien des Guinéens. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir faire du neuf avec de l'ancien. Je crois que c'est cette philosophie qui doit primer dans le champ du professeur Alpha Condé.
Monsieur Kaba Condé, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur à la radio-télévision guinéenne. J'adresse toutes mes félicitations au peuple guinéen qui nous aura fait la preuve de son courage et de sa foi en son avenir. Bravo donc au président Alpha Condé. On y reviendra bien entendu dans nos prochaines éditions. Kaba Condé, merci. Nous passons à un autre sujet, la Côte d'Ivoire, dans quelques instants avec le professeur Iveco Amaizo.
Informé sans déformer, jugé sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Professeur Iveco Amaizo, alors on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais peut-être que vous donniez un point de vue sur votre point de vue, votre impression sur ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry.
En Guinée-Conakry, la situation, bien sûr, c'est des félicitations à un président, à nouveau. Je rappelle d'ailleurs que c'est le deuxième, il faut faire quand même un travail de mémoire. Après tout, Sékou Touré a été élu en 58. Mais Alpha Condé est venu, un grand homme du service public, un homme intègre, le Mandela de la Guinée, dira-t-on. Mais c'est la patience, c'est la ténacité, c'est la foi dans la démocratie, c'est la volonté de faire émerger la vérité des urnes qui a fait de ce monsieur et de son entourage ce que nous aurions voulu pour tout l'ensemble de l'Afrique. Et donc, il faut quand même constater dans tout ce qui a été dit, et que j'apprécie beaucoup de M. Kaba Condé, que la communauté internationale a quand même eu des rôles qui n'étaient pas très très clairs, en tout cas au début du processus, et que heureusement, il y a eu beaucoup de vigilance de la part d'Alpha Condé et de son équipe, qui a permis de porter des plaintes, de faire en sorte qu'on puisse revoir, recompter des votes entre le premier et le deuxième tour, qui a permis d'afficher aussi des résultats qui étaient erronés, et donc de les corriger, ce qui a permis des changements d'alliance entre le premier et le deuxième tour, et ce qui finalement a fait émerger Alpha Condé comme le président de la République de Guinée.
Ah voilà, donc on parle d'un printemps démocratique en Guinée qui contraste vraiment avec l'hiver politique en Côte d'Ivoire, où la situation se cristallise. Alors on sait que depuis la proclamation contestée de la victoire de Laurent Gbagbo par le Conseil constitutionnel, ce sont les forces de défense et de sécurité, le bras armé du camp Gbagbo et les miliciens commandés par des supporters du président sortant qui contrôlent la capitale. Les forces de l'ONU se contentent, elles, d'assurer la protection d'Alassane Ouattara, donc le vainqueur de l'élection reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Et on apprend, et là je cite le journal La Croix, Iveco Amaizo, on apprend que les militaires venus des pays voisins viendraient appuyer les forces nouvelles qui soutiennent Alassane Ouattara. C'est le premier ministre kényan Raila Odinga qui explique que Laurent Gbagbo pourrait céder face à des bruits de bottes en provenance du Libéria, du Ghana, de Boaké. On sait que Boaké, c'est la ville du nord du pays, donc fief des forces nouvelles, fidèle au président élu et de la mer. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela, professeur Iveco Amaizo?
Écoutez, il y a deux éléments dans cette histoire. Le premier des éléments, c'est qu'il n'y a pas eu de vérité des urnes en Côte d'Ivoire. Que quel que soit ce qui est affiché actuellement, on n'a pas des résultats officiels ni du côté de M. Ouattara, quel que soit ce qui est dit, Et on ne peut pas accepter ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle du côté de M. Gbagbo.
Il n'y a pas de vainqueur, selon vous ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, on a fait des élections qui sont incomplètes en Côte d'Ivoire. Avec 300 millions, plus de 300 millions d'euros investis par la communauté internationale, c'est un véritable gâchis financier pour un résultat qui vient du fait que la communauté internationale avait des positions prises dès le départ. Mmh. Il fallait donc laisser ce pays gérer sa crise. Il semble tout simplement, et il ne faut pas l'oublier, le rôle de l'ONU-ci est quand même relativement discutable, puisque c'est sur des injonctions que, justement, le président de la commission électorale indépendante a dû aller dans le QG d'Alassane Ouattara au Golf Hotel pour aller donner un certain nombre de chiffres là-bas et qui ont permis aujourd'hui de faire beaucoup de bruit au niveau du journalisme. Donc, en tant que quelqu'un qui défend Mouvement Citoyen, la vérité des urnes, je dis que ce sont des élections incomplètes. Alors, bien sûr, la position internationale, c'est d'aller vite en besogne, parce qu'on aurait très bien pu, comme en Guinée d'ailleurs, entre les deux tours, puisque laisser la commission électorale indépendante afficher un résultat X, et à partir de là, accepter de revoir les contestations que les amis de M. Gbagbo ont mis sur la table.
Oui, mais justement, la Cour constitutionnelle devait attendre, hein, et elle le dit, c'est bien précisé dans la Constitution, devait attendre un certain nombre de jours avant de proclamer ou la victoire de Laurent Gbagbo ou celle d'Alassane Dramane Ouattara, ce qu'elle n'a pas fait.
Je partage pleinement votre point de vue, et sur ce point, le problème même de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale indépendante est un vrai problème, parce qu'ils sont tous sous influence. Dans un cas, c'était Alassane Ouattara pour la CEI, pour la Cour constitutionnelle, c'est celle de Gbagbo. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la communauté internationale qui aurait dû jouer à une position neutre et qui aurait dû inciter à ce qu'il n'y ait pas de précipitation, a pris les devants et a commencé à prendre des positions. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train d'aller, au lieu de la négociation, aller vers des bruits de bottes, aller vers des gens qui essaient de menacer dans tous les sens du terme. Mais vous savez, on a déjà eu une guerre dans ce pays-là. Et donc, si c'est la guerre que les gens veulent, malheureusement, dans un pays où quand même il y a beaucoup de richesses pétrolières qui se retrouvent souvent au niveau de l'armée, voire même à des troupes qui ne sont pas nécessairement du pays, on risque de repartir vers cette voie-là. La position africaine est quand même très intéressante, et je crois qu'il faut louer les positions de l'Union africaine dirigée par Jean Ping actuellement, c'est-à-dire que c'est une voie de la sagesse. Il s'agit d'abord d'écouter. Il faut écouter les deux protagonistes, pour ne pas dire même les trois, parce qu'après tout, il y a eu aussi des fraudes au premier tour au niveau de M. Bédier du PDCI. Et donc, il faut bien écouter. Et à partir du moment où on écoute, on doit arriver à la conclusion à laquelle nous arrivons dans le collectif de la vérité des urnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vérité des urnes dans ce pays et qu'il y a eu précipitation. Et là-dessus, je pense que personne ne peut nous remettre en cause cette
Alors,
position-là.
Quand même, Iveco Amaïso, j'aimerais quand même vous rappeler que cette élection s'est déroulée donc avec tout un arsenal, on va dire, de la communauté internationale, hein, des observateurs internationaux, des observateurs de l'Union africaine, de la CDEAO, qui ont déclaré, en fait, les résultats des unes disent, en fait, que c'est Ouattara qui a gagné l'élection.
Très bien, mais écoutez, si ces choses se sont passées comme ça, encore une fois, pourquoi tant de précipitation ? Parce que, à force de faire des menaces, à force d'indiquer des choses à gauche et à droite, à force de dire que les gens vont se finir au tribunal pénal, tout ça empêche finalement l'alternance démocratique en Afrique. Ça devient contre-productif. Je suis persuadé qu'un monsieur Gbagbo, qui lui-même était un élu de l'université dans le temps, doit nécessairement quitter tôt ou tard, parce qu'il ne rend pas un service s'il ne fait pas jaillir la vérité des urnes en Côte d'Ivoire. Seulement, laissons les Africains organiser notre palabre africaine. L'afrocentricité existe. Et on ne peut pas, sous des formes de menaces,
mais Iveco
et
Amaïso, si
trouver une solution.
Je suis d'accord avec vous, mais laisser organiser nos palabres africaines, je suis d'accord. Mais quand il y a des morts, des victimes, des personnes qui sont terrorisées, empêchées de s'exprimer, de marcher, il y a un problème, là.
Là aussi, vous
on
avez
pas laisser faire.
Raison. Il n'empêche que la proposition de la négociation a été sur la table. Elle a été refusée de part et d'autre, d'ailleurs, en parenthèse. Alors, ce qu'il convient de faire, je suis d'accord qu'il y a des morts aussi, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire ?
Il y a trop de morts.
Oui, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous avez une communauté internationale qui prend position pour ne pas recompter, prend position pour ne pas établir la vérité des urnes. La position internationale, elle veut imposer un certain nombre de choses, et demain matin, on va nous dire, mais au fond, on n'a jamais su réellement quel est le score réel d'Alassane Ouattara. On a le cas au Togo, on a le cas au Gabon, on a le cas
Alors,
même au Burkina, on a
Maïso,
le cas en Égypte.
Si vous
Donc,
permettez...
Voilà les problèmes de fond. La communauté ne peut pas mettre 300 millions d'euros ou plus pour nous dire qu'on ne sait pas aujourd'hui clairement, simplement indiquer pour les Ivoiriens, parce que c'est
Alors,
une
j'aimerais vous rappeler, Iveco Amaïso, que les votes ont été comptés et recomptés 3 fois par l'ONU-ci. Coco Biri, auditeur en direct, vous souhaitez intervenir ?
Oui, je souhaiterais intervenir par rapport aux à ce que monsieur dit tout à l'heure. Il y a eu bel et bien des élections à Côte d'Ivoire. Ces élections ont été organisées par un ensemble au niveau du conseil de la commission électorale indépendante. Mmh. Tous les membres des partis politiques avaient des représentants. On a empêché la CEI de publier les résultats. Et ensuite, on parle de communauté internationale. Mais la communauté internationale a investi des millions de dollars pour l'organisation de cette élection. Au niveau du Conseil constitutionnel, Monsieur Gbagbo a nommé Paul Yaoundé au Conseil constitutionnel, on a eu des organisations de droits de l'homme qui ont tapé sur la table. Je parle de Crisis Group, je parle de la Fondation Saint-Égidio. Ils ont dit attention. Monsieur a nommé son ami à la tête du Conseil constitutionnel pour inverser les résultats des élections. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et nous, contents de ça, on rentre dans les maisons de nos parents, on va les enlever mutuellement avec des mercenaires, on va les tuer. Attendez, il faut quand même dire la vérité. Ils sont des intellectuels africains, soi-disant, mais qui disent au moins sa vérité aux
populations. Merci,
la
monsieur Kokobiri. Une autre réaction sur notre répondeur. Ensuite, je vous redonne la parole, professeur Yves Kouamaïso.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour, chers auditeurs du JDA. Ici, monsieur Teddy Ligué, député de Soubré et militant FPU, le parti de Laurent Gbagbo. J'interviens au sujet de l'imbroglio de mon pays. J'attire l'attention des jeunes Ivoiriens, surtout africains, de ne pas confondre la lutte personnelle et égoïste de M. Gbagbo à la lutte de l'honneur et de la dignité africaine. Nous avons perdu des élections et nous sommes convaincus de ce fait. Alpha, qui a chanté au moins 4 chansons contre la colonisation, n'a pas reconnu sa défaite. C'est Gbagbo lui-même qui a mis la certification des élections par l'ONU au-dessus de la constitution de la par l'article 48, en signant de fait à Pretoria. Pourquoi l'ONU n'a pas certifié les élections de Burkina et ni de la Guinée? Nous qui connaissons Gbagbo savons qu'il n'allait jamais proposer un poste de vice-président à M. Ouattara s'il avait gagné les élections, comme l'a dit le Conseil constitutionnel. Gbagbo applique notre refrain, on gagne ou on gagne, soit par les urnes, soit par la force avec les militaires. Le combat que mène actuellement Gbagbo n'est pas une lutte de souveraineté nationale, mais plutôt une protection personnelle et égoïste avec son petit clan. J'ai pensé longtemps qu'il était démocrate et était la solution du pays, mais ses derniers agissements après notre défaite m'ont permis de réaliser mon erreur sur sa personne.
01 55 07 58 05 ou 00 33 1 55 07 58 05, si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs.
Professeur Yves Kouamaïso, deux réactions, vous commentez, bien
oui,
sûr.
Oui, les deux réactions sont absolument exactes. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où vous avez beaucoup de contradictions. Les deux interlocuteurs ont dit la vérité. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire exactement, et nous avons ces informations.
Alors, la vérité, c'est que c'est le résultat des urnes après cette élection présidentielle ivoirienne donne Alassane Dramane Ouattara vainqueur.
Non, là, attention, ça c'est la communauté internationale et puis les journalistes qui le disent. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que la communauté électorale indépendante puisse avoir la parole pour pouvoir le dire, parce que ça n'a pas été dit. Ça a été dit dans un hôtel,
mais
etc.
Mais on lui a enlevé la parole.
La deuxième chose, il faut revoir ce qui se passe. La communauté internationale a systématiquement, dans tous les pays africains, en tout cas francophones surtout, fait en sorte que la Cour constitutionnelle était la dernière à donner son point de vue. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas dans le cas ivoirien, cette Cour constitutionnelle a fait la même chose ici. Malheureusement, le candidat, bien sûr, n'est pas celui de la communauté internationale. Prenez le Gabon, prenez le Togo, prenez d'autres pays. Donc on a un problème sur le fait que des financements viennent de l'extérieur et ce n'est pas les
Alors,
Africains.
Alors, Yves Kouamaïso, je vous permets, les auditeurs qui interviennent et qui disent que Gbagbo doit céder ne sont pas, c'est des Ivoiriens. Ils s'expriment, écoutez Franck, c'est son point de vue en tout cas. Allô Franck?
Oui, allô,
bonjour, je vous écoute. Très rapidement, ce journal se termine très bientôt.
Bah, moi, c'est Franck Gadou, je suis BT des Gagnois aussi.
Oui.
Je ne sais pas, le frère, il s'acharne sur les fonds qui viennent de l'ONU. C'est Barou qui a bien, bel et bien demandé l'ONU d'investir. On ne peut pas investir 300 millions dans un pays et puis n'a pas dit ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a voté, on a perdu. La Côte d'Ivoire ça va rester une et indivisible. Bagbo et Alassane, ils sont que des passants. Bagbo, il n'a qu'à accepter. C'est comme Sidou Dalein Diallo. Aujourd'hui, il est sorti grand. Ça ne sert à rien de jouer les dieux, et puis après céder. C'est comme si, bon, voilà. Moi, le petit conseil que je peux leur apporter, c'est ça, quoi. Ça ne sert à rien de jouer les dieux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde entier sait qu'il a perdu les élections. Tout le monde ne peut pas être contre Gbagbo Laura. Même la Russie et la Chine qui le soutenaient, aujourd'hui, l'ont lâché. Tu ne peux pas gagner les élections et puis on va te renverser. C'est fini, ça.
Merci, Franck. Professeur Yves Ekwueyemahiso, en 15 secondes.
Il faut garder la cohésion sociale dans un pays. Ceux qui sont des va-t-en-guerre dans un pays vont faire une situation difficile pour celui-même qu'on va choisir plus demain à la fin de Ouattara ou quelqu'un d'autre pour gérer ce pays. Il faut garder la cohésion sociale.
Merci.
Et pour cela, il ne faut pas dire des choses sans avoir des éléments qui permettent à celui qui a perdu de sortir avec dignité.
Merci Yves Ekwueyemahiso, expert international et auprès de l'Union africaine. C'est la fin de ce JDA. Merci. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence.
Africa numéro 1.